Saint-Alphonse de Ligorie. Imaginez un jeune homme brillant, le plus grand avocat de Naples, qui un beau jour pose sa robe, tourne le dos à la gloire, à la fortune, et décide de tout donner pour se donner à Dieu. Retrouvez-le quelques années plus tard, rejoignant à pied des villages de montagne pour annoncer l'évangile aux plus pauvres. Il écrira des centaines de livres, malgré la maladie et même malgré la cécité. Il fondera une congrégation de missionnaires, deviendra évêque, il souffrira des années entières dans la paix, avant de mourir à 91 ans, en saint. Cet homme, c'est saint Alphonse de Ligorie. Son histoire commence dans le sud de l'Italie à la fin du XVIIe siècle. Alphonse Marie de Ligorie naît le 27 septembre 1696 à Marianella, un petit village situé près de Naples en Italie. Il est le premier des sept enfants de Giuseppe de Ligorie et d'Anna Cavalieri, une famille noble profondément enracinée dans la foi catholique. Dès l'enfance, il est évident qu'Alphonse n'est pas un enfant ordinaire. Il apprend avec une facilité déconcertante, joue du clavecin, dessine, peint. Il est à la fois peintre et musicien, réalisant même des tableaux de la Vierge et du Christ. Mais c'est son intelligence qui stupéfie tout le monde. Inscrit avec succès malgré son jeune âge, 12 ans, à l'université de Naples, il y rencontre un professeur exceptionnel, le philosophe Giambattista Vico. En 1713, il est finalement reçu docteur en droit, avec dispense d'âge, bien sûr, il a seulement 16 ans. Il racontait lui-même qu'il était alors si petit qu'il disparaissait presque dans sa robe de docteur, ce qui faisait rire tout le monde. On imagine la scène, ce jeune homme à peine sorti de l'adolescence, coiffé d'un bonnet de docteur trop grand pour lui, qui salue gravement les professeurs. Mais derrière ce sourire, il y a déjà quelque chose de sérieux, comme une soif que les honneurs humains ne parviennent pas à étancher. À 19 ans, Alphonse de Ligorie exerce donc sa profession devant les tribunaux. Pendant les 8 ans où il fut avocat, il dit n'avoir jamais perdu un seul procès. Même en faisant la part de l'exagération, la tradition atteste que son talent était extraordinaire et qu'à 27 ans, il comptait parmi les ténors du barreau de Naples. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Il lui manque un quelque chose qu'il ne parvient pas à définir. Il a la gloire, la richesse aussi, mais son cœur reste vide. Et puis, survient le tournant de sa vie. Un jour de 1723, Alphonse défend une cause importante, une grande affaire entre deux familles nobles du royaume. Il est sûr de lui, il a préparé sa plaidoirie avec soin. Mais soudain, il réalise qu'il a commis une erreur. Une pièce du dossier lui avait échappé et l'adversaire le fait remarquer devant la cour. Alphonse perd ce procès, peut-être le premier de sa carrière. Cet échec le bouleverse profondément, mais ce n'est pas seulement la honte d'une défaite qui le touche. C'est comme si Dieu s'en servait pour lui ouvrir les yeux. Dans les semaines qui suivent, au cours d'une visite à l'hôpital des Incurables de Naples, où il rencontre des malades en phase terminale, Alphonse ressent un appel intérieur puissant à se consacrer au Seigneur. Ses rencontres avec des personnes souffrantes le touchent profondément et renforcent son désir de servir les plus vulnérables. On dit qu'en quittant l'hôpital, il rentra chez lui, prit son épée, un signe de la noblesse, et alla la déposer devant l'image de la Vierge Marie comme un chevalier qui rend ses armes. Dorénavant, il ne servirait plus que le Seigneur. Malgré l'opposition de son père, qui avait rêvé pour lui d'une brillante carrière, Alphonse décide de renoncer à sa carrière d'avocat pour entrer au séminaire. En 1726, à l'âge de 30 ans, il est ordonné prêtre. À Naples, le nouveau prêtre, l'abbé Alphonse de Ligorie, aurait pu faire une belle carrière ecclésiastique. Il connaît du monde, il a du talent, il parle très bien évidemment, et il vient de la noblesse. Mais ce n'est pas ce qu'il cherche. Il descend dans les rues, dans les quartiers misérables, auprès de ceux qu'on appelle les Lazzaroni, les gueux de Naples, ceux dont personne ne s'occupe. Là, il prêche, confesse, visite les malades et écrit ses premières œuvres spirituelles. Sa parole est proche des personnes, claire, miséricordieuse et surtout enracinée dans l'Évangile. Mais c'est lors d'un voyage dans les campagnes autour de Naples qu'il comprend l'étendue de la misère humaine et spirituelle qui règne alors dans sa région. Des villages entiers, perdus dans les montagnes, n'ont jamais vu de prêtre depuis des années. Les gens vivent dans l'ignorance de leur foi, sans sacrement, sans catéchèse, sans personne pour leur parler de Dieu. En 1732, frappé par la misère matérielle et spirituelle des campagnes, Alphonse décide carrément de fonder une nouvelle œuvre, la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur, connue sous le nom de Rédemptoriste. Leur mission sera d'annoncer la bonne nouvelle aux plus pauvres, aux abandonnés, aux exclus des villes et des campagnes. Leur devise est « Copiosa apudeum redemptio », ce qui veut dire « Chez lui, la rédemption est abondante ». Dans le contexte de l'époque, ces quelques mots sont un programme révolutionnaire, car le grand danger spirituel du XVIIIe siècle, c'est le jansénisme, une façon sombre et rigoriste de présenter Dieu comme un juge implacable qui n'accorde sa grâce qu'à un tout petit nombre d'élus. Alphonse Sopho s'oppose au légalisme stérile qui étouffe trop souvent la théologie de son temps et rejette le rigorisme strict de l'époque. Selon lui, une telle rigueur n'a jamais été enseignée ni pratiquée par l'Église. Contre cette vision glaciale, Alphonse annonce un Dieu de tendresse, le Rédempteur, dont la miséricorde déborde en rachat pour tous les hommes qui accueillent sa grâce. Il insiste dans des prédications simples, chaleureuses, accessibles à tous, car il veut faire redécouvrir à chacun l'amour du Christ, la beauté du pardon, la grâce de la prière. De 1726 à 1752, d'abord comme prêtre diocésain, puis à la tête de ses propres missionnaires rédemptoristes, Alphonse traverse les provinces autour de Naples pendant la plus grande partie de chaque année en donnant des missions jusque dans les plus petits villages. Entre deux missions, épuisé, souvent malade, Alphonse écrit, et il écrit énormément. Son œuvre théologique et spirituelle est absolument considérable, tant en qualité qu'en volume. 111 ouvrages, dont certains ont connu plus de 20 000 éditions. Comment est-ce possible? Pourquoi écrire autant? N'est-ce pas répétitif? La réponse est simple. Alphonse n'écrit pas pour les savants, il écrit pour les gens ordinaires, pour les pécheurs, pour les âmes découragées, pour les confesseurs hésitants. Il écrit avec son cœur de missionnaire, à partir de l'expérience concrète des âmes qu'il rencontre. Parmi ses œuvres les plus connues, Les grands moyens de la prière, La pratique de l'amour de Jésus-Christ, Les gloires de Marie, ou encore Les visites au Très-Saint-Sacrement. Des livres concrets, pratiques, qui se répandront dans le monde entier et seront traduits en des dizaines de langues. Son chef-d'œuvre théologique est cependant sa théologie morale, qui est née directement de son expérience pastorale. Cette œuvre cherche à répondre aux questions pratiques posées par les fidèles, en confession ou en dehors. Elle est née de sa proximité des chrétiens et de son contact avec leurs problèmes quotidiens. Un confesseur ne sait pas quoi décider face à telle ou telle situation complexe. Saint Alphonse lui fournit un cadre clair, humain, ancré dans la tradition et toujours soucieux de la conscience des personnes. Et puis il y a la musique. Homme aux multiples talents, Alphonse compose des mélodies et des cantiques de Noël qui sont aujourd'hui encore parmi les plus populaires en Italie. On dit que lorsqu'il chantait lui-même ses compositions, les gens pleuraient. En 1762, Alphonse est nommé évêque de Sainte-Agathe des Gaux, petite ville située non loin de Naples. Il s'attache aussitôt à renouveler tout son diocèse, allant lui-même de paroisse en paroisse, de couvent en couvent, se montrant attentif à tous. Même devenu évêque, il demeure toujours simple et ami des pauvres, menant lui-même une vie très humble. Mais les dernières années d'Alphonse sont marquées par une accumulation d'épreuves que peu d'hommes auraient pu supporter. Sa santé se dégrade gravement. Il est atteint d'un rhumatisme qui déforme son cou au point qu'il ne peut plus redresser la tête. Il devient presque aveugle. Il dut même quitter sa charge d'évêque en 1775 en raison de ses maladies. Et pourtant, au milieu de ça, il est toujours assailli par de terribles tentations, en particulier des tentations contre la vertu de pureté. Et comme si cela ne suffisait pas, la congrégation qu'il avait fondée connut une crise douloureuse. En raison d'intrigues politiques, Alphonse est même exclu de sa propre fondation. Lui qui avait donné sa vie pour les rédemptoristes se retrouve séparé d'eux. Sans se troubler, il prêche alors à ses frères la soumission à la volonté divine. Le Seigneur veut faire prospérer l'Institut, non point par la faveur ou la protection des princes, mais par le mépris, la pauvreté, la souffrance et la persécution, dit-il. « Quand avez-vous vu les œuvres de Dieu commencer au milieu des applaudissements » ajoute-t-il. Il passe les dernières années de sa vie dans la souffrance, paralysé, presque aveugle, abandonné même par une partie de ses frères. Et pourtant il reste fidèle, priant et offrant tout au Seigneur. Toute sa vie, Alphonse n'eut qu'un seul désir, faire amoureusement la volonté de Dieu. Épuisé et malade, il meurt le 1er août 1787 à l'âge de 91 ans. Il avait commencé sa vie comme un brillant avocat, sûr de lui, couronné de succès. Il la termine pauvre, malade, humilié, mais parfaitement heureux, parce qu'il a trouvé ce que rien d'autre ne pouvait lui donner, Dieu. Canonisé en 1839, Alphonse de Ligorie est proclamé docteur de l'Église en 1871, saint patron des confesseurs et des moralistes. sa spiritualité est éminemment christologique, c'est-à-dire qu'il a le Christ et l'Évangile pour cœur. La méditation du mystère de l'incarnation et de la passion sont souvent le sujet de sa prière et de sa prédication, où il insiste aussi beaucoup sur le rôle de Marie dans l'histoire du salut. Nourri des grands auteurs spirituels, citant sans arrêt les saints, saint Alphonse de Ligoris se consacre à lutter contre le rigorisme moral, insistant sur la confiance en Dieu et en sa bonté. Il insiste sur le rôle des sacrements et se fera le promoteur de la communion fréquente comme moyen ordinaire de sanctification. Alors que retiendrons-nous de saint Alphonse de Ligoris ? Peut-être ceci. La sainteté n'est pas réservée aux parfaits, aux forts, aux gens qui n'ont jamais échoué. Elle est offerte à chacun, copieusement, comme le dit la devise de ses missionnaires, « Copiosa apudeum redemptio ». Chez lui, la rédemption est abondante. Elle l'était pour les pauvres de Naples, elle l'est aussi pour vous et pour moi. Saint Alphonse de Ligoris, priez pour nous.